I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
Littérature et bière glacée.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grande Flore Café par Hugues Robert.
Bonsoir, bienvenue sur le Grande Flore Café. Donc ce soir, on va comme d'habitude parler de livres, de littérature. On va parler d'un aspect un peu particulier du monde des livres et de la littérature qui est la librairie. Alors pourquoi ? Ben, on saisit le prétexte, c'est que la librairie Caribde, à laquelle j'ai la chance d'appartenir avec plusieurs de mes amis et collègues, emménage en fait la semaine prochaine chez Grande Contrôle, donc avec ses 8500 livres. Et on espère que ça va vous plaire. Nous en tout cas, on est tout excités à l'idée de démarrer cette petite aventure. Donc en attendant de vous en dire plus la semaine prochaine donc sur Caribde et sur sa présence à Grande Contrôle, on s'est dit que c'était le moment ou jamais de parler de la librairie dans la littérature. Et puis de la librairie en général, parce que toutes les personnes qui s'intéressent aux livres, normalement, j'espère en tout cas, mettre régulièrement les pieds dans des librairies et avec plaisir. La librairie dans la littérature, alors attention tout de même, un petit caveat, c'est assez différent de la bibliothèque. C'est pas non plus le livre, hein, le livre dans la littérature, c'est évidemment complètement central. La bibliothèque, on connaît des bibliothèques extrêmement célèbres, la bibliothèque de Babel de Borges, bien sûr. La bibliothèque dont je ne vous dirai pas plus pour ceux qui n'auraient pas lu Le nom de la rose d'Umberto Eco, mais la bibliothèque y joue un rôle évidemment central. La librairie, c'est un petit peu différent. Elle a beaucoup de formes, beaucoup de rôles particuliers, de très distincts les uns des autres dans la littérature, en fait comme dans la réalité, parce que la librairie, ça ne veut au fond pas dire grand-chose. Et pour illustrer un petit peu ça, je vous ai choisi 6 textes, 6 romans, donc qui vont présenter 6 librairies assez différentes les unes des autres. Donc la librairie, tout d'abord, et là on remonte un peu à une époque qui s'ancre dans le 19e siècle, peut-être même le 18e, et qui correspond tout à fait à la première moitié du 20e siècle. La librairie n'est pas complètement différente d'un laboratoire, d'un endroit où se fait même de l'édition. C'est la librairie pionnière, c'est la librairie des pionniers. Et il y a un magnifique texte à ce propos de Kaouté Radimi, qui s'appelle « Nos richesses », donc qui est paru en 2017. Au Seuil, et Kaouté Radimi nous parle notamment, pas que, mais notamment dans ce Nos Richesses, de Edmond Charlot, qui dans les années 30 à Alger, ouvre une librairie, ce qu'on appellerait aujourd'hui une librairie indépendante, une librairie laboratoire, un endroit où viennent des écrivains, on y trouvera bien entendu Albert Camus, tout jeune, des écrivains y viennent, c'est un endroit de... Oui, c'est un lieu culturel, un endroit où les gens viennent échanger, viennent discuter de façon fiévreuse, de façon enthousiaste. C'est une des choses qui est le plus admirable dans les librairies, on en reparlera tout à l'heure. Un certain nombre de librairies, aujourd'hui en France et ailleurs, essayent, contre vents et marées, et c'est pas facile, il faut bien s'en douter, de maintenir un peu cet esprit fiévreux, cet esprit de discussion, cet esprit de débat autour de ce qui se fait en fait dans la littérature, de ce qui bouge, de ce qui vit. Un autre texte qui touche... qui n'est pas tout à fait évidemment le même point que celui évoqué par Kaouté Radimi, mais qui touche effectivement à un rôle de la librairie qui se retrouve parfois exposé. C'est un texte de l'auteur britannique, l'autrice britannique Penelope Fitzgerald. En français, ça a été traduit sous le nom L'affaire Lolita en 1978, et ça a été souvent réédité depuis, c'est disponible en folio désormais. L'affaire Lolita, c'est une chose qui arrive en fait à des librairies, sauf que là, c'est traité de façon extrêmement emblématique. C'est une librairie de village, enfin de ville, de petite ville, très appréciée de tous et de toutes, avec ce rôle justement un peu emblématique du libraire qui est, ou de la libraire qui est une grande lectrice, qui joue un peu le rôle d'exploratrice pour la communauté. Et puis un beau jour, elle met dans la vitrine un livre qui lui a beaucoup plu, qui est Lolita de Vladimir Nabokov. Et d'un seul coup, le livre est précédé par sa réputation sulfureuse, donc et beaucoup de personnes dans l'environnement qui n'ont pas lu le livre, mais qui en ont entendu parler, et pas en bien, en très obscène. d'un seul coup, en fait, projette ce qu'il pense du livre sur la personne de la libraire. Et ça fait un roman, alors qui ne se réduit pas à ça, mais qui est très intéressant, parce qu'on dit souvent à propos de littérature que est-ce qu'il faut ou pas distinguer l'auteur et l'œuvre ? Ben voilà, on est dans un cas limite où est-ce qu'il faut distinguer la libraire et les livres qu'elle vend. Alors là, dans le cas de l'affaire Lolita, c'est particulièrement extrême. On pourrait évidemment s'y retrouver dans le débat éternel qui rôde tous les ans dans les librairies, en particulier dans les librairies dites indépendantes, hein, celles qui font des choix éditoriaux en quelque sorte dans ce qu'elles présentent, qui ne prétendent pas tout présenter, qui est certains livres, est-ce qu'il faut en fait les mettre en vente ou pas ? Est-ce qu'il faut bien entendu se contenter de les commander quand quelqu'un le veut, ou est-ce qu'il faut les exposer, les pousser, alors que c'est des livres qui ont, alors, ou pas un intérêt, mais qui sont en tout cas très très médiatisés. Donc on a un cas limite avec l'affaire Lolita de Penelope Fitzgerald, 1978. Alors, la librairie, c'est aussi un endroit, et ça c'est lié à sa présence des livres, à ses ramifications, à tout ce qui pèse en fait un peu d'imaginaire autour, c'est un endroit qui devient facilement mystérieux, voire légèrement fantastique. Et là, on retrouve les aspects spéculatifs, en fait, de la bibliothèque de Babel de Borges ou de celle d'Umberto Eco. La librairie, c'est un endroit, effectivement, qui prédispose à des choses un peu tortueuses, des choses dissimulées. Dans la masse de livres, il y a des arcanes secrètes. Et il y a donc deux livres qui sont tous les deux très connus, hein, qui ont été des grands succès. Le premier, c'est L'ombre du vent, de Carlos Ruiz Zafón, publié en 2001, qui n'est pas un livre sur la librairie, mais dans lequel une librairie catalane, en fait, donc tenue par un vieux monsieur qui aimerait bien qui aurait bien aimé la transmettre à son fils, mais il n'a pas vraiment eu le temps, et le fils se retrouve finalement avec cette librairie qui dissimule quelque chose d'autre qu'une librairie, et qui dissimule non pas une cellule de fabrication d'armes pour du terrorisme, mais des choses bien plus sulfureuses, bien plus ésotériques. Et donc, je ne vais pas vous raconter L'ombre du vent, c'est hors de question, mais c'est un très beau livre qui donne toute sa part de mystère en fait à la librairie. Dans un genre voisin, donc il y a le très beau La librairie des ombres, hein, de Mikkel Bjerkegaard, qui est un Danois, publié en 2007. Et La librairie des ombres, en fait, travaille aussi un aspect fantastique autour du livre, qui est que la lecture n'est pas un acte anodin. En fait, dans la lecture, il se passe quelque chose d'alchimique, et de la métaphore de la lecture alchimique à l'existence d'un pouvoir extrasensoriel qui se révélerait à travers la lecture, il y a un pas que l'auteur franchit et nous emmène dans une direction assez étonnante, et je ne vais pas non plus évidemment vous le raconter. Le troisième type de présentation de la librairie qu'on va trouver dans la littérature, alors là, est plus directement lié à la librairie contemporaine, et je vais vous donner deux aspects très différents, un peu au deux bouts du spectre, pour parler vraiment d'une librairie concrète d'aujourd'hui. L'un, c'est le très beau roman de Laurence Cossé, publié en 2009, qui s'appelle « Au bon roman », et qui est un livre très technique, très documenté, avec une prémisse qui est à la fois très simple et pourtant qui ouvre des portes insoupçonnées. Il y a deux personnes donc dans Au bon roman qui viennent du monde de l'édition et qui décident un beau jour de dire finalement il n'y a aucune librairie qui existe là à Paris qui nous satisfasse complètement. On va ouvrir nous notre librairie et ça sera la librairie idéale qui ne présentera que des bons romans. Elle s'appellera tout simplement Au bon roman. Alors ça peut paraître, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils nous font là ? Et en fait, Laurence Cossé réussit à faire un livre qui est à la fois très respectueux de la réalité du monde de l'édition, de la distribution, de la librairie, de la lecture, des profils de lecteurs et des gens qui fréquentent les librairies, et en même temps va dans une direction assez provocatrice et réussit à construire un véritable roman policier, en fait, à enjeu, à intrigue, à mystère, autour de la simple création d'une librairie qui ne semble pas non plus quelque chose d'insurmontable. Et ça en fait un roman très curieux qui, justement, trouve des échos avec certains de ses romans précédents, et notamment Le coin du voile, qui, je le vous mentionne au passage, parce que si vous étiez intéressé un jour à quelque chose comme Da Vinci Code, et ben, au lieu d'avoir une espèce de gros pavé écrit avec les pieds, vous avez quelque chose qui est fin, qui est intelligent et qui traite en fait des mêmes sujets avec une qualité littéraire totalement différente. C'est donc Le coin du voile de Laurence Cossé. Un autre auteur qui a su jouer justement avec le côté un peu fou qu'il y a finalement chez un libraire de nos jours, quelqu'un qui vit pour les livres, qui en vit éventuellement ou qui en survit tout juste, mais qui a un tel amour en fait pour les livres et pour la transmission des livres et de leur contenu que ça crée une vie assez particulière. Et c'est un texte que vous connaissez sans doute qui s'appelle Le libraire, tout simplement, de Régis de Samorera, qui est paru au Diable Vauvert en 2004 et qui est maintenant édité en poche, en livre de poche, je crois. Et Le libraire, et ben, comme son nom l'indique, pourrait être simplement la description de la vie d'un libraire. C'est un petit peu plus parce que ce libraire vit dans sa librairie, il est jour et nuit, travaille 18 heures sur 24 en fait à rassembler des impressions, des opinions, des témoignages sur des livres pour de façon à pouvoir en transmettre un maximum. Donc prend vraiment son métier tellement à cœur qu'il en devient un personnage un peu de pas seulement de théâtre, mais de science-fiction ou de fantastique. Et pourtant, ce n'est pas un roman fantastique, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est très poétique, c'est assez décalé. Et donc, ça vous fait 6 romans qui parlent de libraire et de librairie. Et après la pause musicale, on va parler des librairies concrètes d'aujourd'hui et de la façon dont elles se relient à ces différents archétypes fantastiques, réels ou pionniers. Donc, une petite pause musicale où on parle évidemment de librairie également. C'était donc The Box in the Bookstore des célèbres Caleb Nation. Et on retourne tout de suite au Ground Floor Café.
Ground Floor Café. Hugues Robert.
Alors la librairie, donc on l'a vu dans la littérature, la librairie c'est un lieu avant tout. Et c'est un lieu, c'est important, c'est un lieu physique, c'est un lieu animé. Pourquoi j'insiste sur ça? Bon, il y a une part de conviction, de croyance bien entendu, mais aussi une part de logique. C'est que une tentation depuis une vingtaine d'années, hein, c'est que pour des raisons de gestion des marges, de gestion des coûts, de gestion du prix des loyers, des salaires, etc., un certain nombre de librairies se sont laissées doucement glisser vers être en fait des lieux de commande et de distribution. Des points colis super sophistiqués. Et ça, il est clair que face à, pour ne pas le citer, en fait pour le citer, mais à Amazon et ses homologues, bah face à ces librairies-là, effectivement, c'est un peu facile. ville, quoi, pour eux, hein, parce que si une librairie se contente d'être un lieu de transit, en fait, pour des livres qui ont été en réalité commandés et tirés par des lecteurs qui les demandent sans qu'il y ait de médiation, sans qu'il y ait de transmission, eh ben c'est vrai que c'est une pure logistique et que cette pure logistique, elle a du mal à justifier ses loyers de centre-ville, ses employés hautement qualifiés qui font en fait la librairie. Donc la librairie, c'est bien un lieu qui doit et qui le fait aujourd'hui en grande majorité en France, qui l'a soit toujours fait, soit qui s'est mis à le faire. C'est donc un lieu d'animation, c'est un lieu... Alors, on va en parler de conseils et de passages. De passages, pas au sens où des gens y passeraient, mais parce qu'on y passe des choses. Et on y passe de la littérature et tout ce qui va autour. Et alors, c'est un vaste débat entre libraires, entre confrères et consoeurs. C'est toujours la part du passage et la part du conseil. En gros, et pour utiliser un vocabulaire très économique, ce serait des questions de est-ce que c'est plus une politique de la demande, plus une politique de l'offre, à savoir que une cliente ou un client va venir vous dire en tant que libraire, je voudrais, et je vais en donner quelques exemples parce que c'est parfois assez savoureux et parfois très émouvant, ceci. Et donc, vous fournissez ce qu'on vous demande, ou au contraire, la personne vient sans idée particulière, ou même recherche en disant qu'est-ce qui vous, libraire soupçonné d'être grosse lectrice ou gros lecteur, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimez, dites-moi. Et évidemment, ces deux pôles qui sont pas nécessairement opposés, qui sont complémentaires, mais qui ne représentent pas la même façon hein, de transmettre de la littérature. Et on va retrouver ça, effectivement, même dans une petite librairie comme Carib, dans une typologie de clients, alors qui va être décalée vers certains types de clients, parce qu'au bout d'un moment, et ça, on l'a toujours dit, les libraires tendent à créer leur clientèle, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, on va retrouver, effectivement, des lecteurs ou des lectrices qui ont une idée très précises, hein, qui vont venir demander tel livre dont ils ont entendu du bien par ailleurs, et donc ils vont venir simplement vous le commander parce qu'ils sont gentils en fait et qu'ils préfèrent venir vous le commander à vous, libraire du coin de la rue, plutôt qu'à une grande multinationale qui paye pas d'impôts en France, etc., etc. Et donc ça, on les en remercie évidemment, mais on se rend bien compte que c'est pas la partie la plus excitante du métier de libraire, de passer la commande d'une référence en fait qui vous a été fournie. Il y a des choses qui sont redoutables et qui sont très intéressantes en revanche. C'est la cliente ou le client parfaitement déterminé qui vient vous demander, et je vais prendre un exemple au hasard, j'aimerais un livre qui parle de coup d'État au Guatemala, si ça existe. Et là, bien entendu, vous pouvez toujours taper coup d'État au Guatemala dans un moteur de recherche, mais sinon, ce genre de demande a tendance, quand elle n'est pas appuyée sur une actualité, parce que parfois c'est un livre dont on vient de parler, donc là vous essayez de le retrouver, soit vous en avez vous-même entendu parler, ce qui arrive, soit vous le trouvez, mais sinon ça fait appel évidemment à un mélange de votre culture générale et de votre capacité en fait à arpenter rapidement des moteurs de recherche en étant un peu imaginatif pour trouver des demandes parfois extrêmement précises. Donc ça peut être un coup d'état au Guatemala, ça peut être j'aimerais bien une histoire où on parle de volcans en Islande, par exemple, bon, là, il faut aussi trouver, ou bien une histoire qui se passerait en Indonésie, mais pas à Sumatra ou à Java, plutôt dans les îles. Là encore, il va falloir... alors, soit vous le connaissez, et c'est bien, et bravo, mais et vous vous rendez bien compte que la multiplicité potentielle, en fait, des demandes rend délicat cet exercice-là. Et qu'on est parfois content d'être plusieurs, parfois content d'avoir effectivement, soi-même ensuite, et j'y viendrai, un travail d'archivage de ses propres lectures d'une certaine façon, de façon à pouvoir les mobiliser face à ce type de demande. Et ça, c'est ce que j'appelle des demandes précises. La personne veut quelque chose, soit par exemple parce qu'elle va voyager en Islande dans un parc de volcans et qu'elle a envie de lire un roman ou qui en parle. Il y a des cas où la demande est beaucoup plus floue. Alors, il y a les cas qui parfois font sourire les libraires, mais sans méchanceté, hein, qui sont effectivement des clients, tous les clients qui vont demander « Si, mais vous voyez bien ce livre, tout le monde le connaît, qui a une couverture orange. » oui, en fait, contrairement à ce que pense cette cliente ou ce client, il y a beaucoup de livres qui ont des couvertures orange, et donc c'est pas très facile de le retrouver comme ça, sans autres éléments. Parfois, ensuite, le puzzle se complète un peu, on va dire « Mais si, il y a un personnage, bon, ça aide pas suffisamment non plus. » Mais peu à peu, on finit par trouver, en fait, de quoi il s'agit. Et parfois on se dit tous ensemble, cliente et libraire, ah bon sang, mais c'est bien sûr. Et parfois on se dit, ah bah voilà, ça a été une longue épreuve archéologique, mais on a fini par retrouver ce livre complètement improbable et assez loin finalement de la demande initiale. Mais il y a le cas de demandes plus floues mais intéressantes qui sont j'aimerais bien un livre qui me fasse rêver ou qui soit assez poétique mais en même temps qui soit un roman, enfin des choses comme ça. Et c'est là bien entendu que les libraires commencent à mobiliser leurs propres goûts, leurs propres envies, les choses qui plaisent. Et puis il y a le cas qui est extrême, qui est un peu à l'opposé, qui est particulièrement plaisant, mais qui est rare parce que c'est une sacrée marque de confiance de la part d'une cliente ou d'un client, c'est de dire je commence à vous connaître un peu en tant que libraire, j'aime ce que vous lisez ou la façon dont vous parlez des livres que vous aimez, donc finalement juste passez-moi 1, 2, 3 livres que vous aimez, c'est tout quoi que ce soit, simplement qui vous plaise vraiment. Là effectivement. C'est magnifique, c'est superbe. Et en même temps, ça fait un peu peur en tant que libraire, parce que pour peu que vous ayez vous-même des goûts un peu éclectiques, vous dites, bon, alors cette personne, est-ce que je lui passe l'extraordinaire, absolument extraordinaire, 300 millions qui vient de sortir en français, donc qui est absolument superbe, mais qui raconte quand même les exploits d'un gourou chef de secte qui a... démarrer son programme qui est d'exterminer les 300 millions d'Américains et qui fait ça avec un luxe de détails quant à la façon de les faire mourir. Donc vous dites, bon, ça j'ai beaucoup aimé, est-ce que je vais quand même tout de suite le passer à cette dame avec qui on a jusqu'ici surtout parlé de poésie et de René Char? Je suis pas sûr. Donc il va falloir un peu trier dans cette demande. Mais en tout cas, c'est extrêmement plaisant, bien entendu. Alors, une des façons qu'un certain nombre de libraires, je crois, même si c'est un temps non négligeable, évidemment, à y consacrer, mais qui permet de structurer un peu cette médiation, de la rendre moins... fastidieuse, c'est effectivement de prendre le temps de rédiger des notes de lecture. Donc, les plus connues, c'est celles qui sont effectivement qui figurent sur les couvertures des livres, des petits mots qui peuvent faire une phrase, qui peuvent faire parfois un long paragraphe, et qui permettent de dire finalement pourquoi cette libraire-ci ou ce libraire-là a aimé ce livre-là dont il est question. Et une autre façon de le faire, c'est ce qu'on a choisi de faire chez Caribe, c'est de faire un blog en fait où on met l'essentiel de nos lectures au jour le jour ou presque. Et donc là actuellement on a 2500 notes de lecture sur notre blog, ce qui permet effectivement aux personnes qui suivent ce blog, donc qui sont clients de la librairie, soit en proximité physiquement, soit à distance par correspondance, de se faire une idée assez précise au fil de l'eau de comment tel ou tel libraire de Caribde lit, qu'est-ce qu'il aime finalement, qu'est-ce qui lui plaît, et ça permet ensuite de mieux décoder ses propres recommandations. De dire oui, je sais bien que vous avez aimé, mais moi c'est pas mon genre de beauté, et ainsi de suite. Et donc ce blog, on va évidemment continuer à vous en faire profiter. Et c'est sur ça que je voudrais conclure cette émission d'aujourd'hui. Rappelez donc à partir de la semaine prochaine, de mercredi prochain, donc la librairie Caribde qui était au 129 rue de Charenton sera installée chez Ground Control, et que on s'en réjouit parce que on a vraiment l'impression qu'il y a une phase, qu'on est en phase en fait avec un lieu auquel on participe via cette émission de radio depuis maintenant un peu plus d'un an, et un lieu qui est quand même sous le signe de la liberté et de la curiosité, qui sont un peu des valeurs cardinales pour notre librairie depuis l'origine, il y a 8 ans. Et donc on se réjouit de vous rencontrer toujours plus nombreuses et toujours plus nombreux à Ground Control même, et on en reparlera bien entendu, et de littérature et de livres, la semaine prochaine sur le Ground Floor Café.
Sing about Rock Island Line. Nobody seems to pay him any mind. Bestsellers and bookshelves full of self-help printed word. Something elegant is heard. No words at Ellington or Bird. Has it really come to this? Jazz at the bookstore and blue.
news in the coffee shop, jazz at the bookstore, and blues in the coffee shop. Well, there's a man standing at the crossroad with the dark roast in his hand. He's living in white yuppie land, over by the milk and sugar stand. And have I really come for this? A cup of caffeinated bliss. So we browse around all over the town, sipping coffees that we can't pronounce. Meanwhile, in the blue cemetery, all the coffins commence to bounce. Smooth and paved. Has it really come to this? Can ignorance be this? Waiting for the other shoe to drop. Jazz at the bookstore and blues in the coffee shop.
Littérature et bière glacée.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grande Fleur Café par Hugues Robert.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.